23h ici à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, Israël dit avoir mené des frappes en Iran sur une dizaine de sites militaires et nucléaires. Cela s'est passé il y a quelques minutes. Le ministre israélien de la Défense évoque des frappes préventives, trafic suspendu à l'aéroport international Imam Khamenei de Téhéran. L'État hébreu a déclaré l'état d'urgence. Washington ne serait pas impliqué dans ces attaques. En République démocratique du Congo, Bintou Keïta est arrivée ce jeudi à Goma. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO doit s'entretenir avec les représentants de l'AFC M23. Il n'y a qu'un seul survivant sur les 242 passagers du Boeing 787 de la compagnie Air India. L'avion s'est écrasé après son décollage à l'aéroport international d'Ahmedabad. Nouveau coup dur pour le constructeur américain Boeing. Dans ce journal également, la députée européenne et militante pour la Palestine Rima Hassan est de retour en France depuis ce jeudi soir. Après sa détention en Israël, elle s'est exprimée place de la République à Paris, vous l'entendrez. Et puis c'est une première pour Ankara dans le secteur aérien. La Turquie va exporter 48 avions de chasse vers l'Indonésie. Mais d'abord, ces frappes israéliennes sur une dizaine de sites iraniens. Cela s'est passé il y a quelques minutes. De fortes explosions ont été entendues à Téhéran. Le ministre israélien de la Défense évoque des frappes préventives. L'État d'Hébreu a déclaré l'état d'urgence. Washington ne serait pas impliqué dans ces attaques. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Presque 5 mois après la prise de Goma par l'AFC M23, appuyé par l'armée rwandaise, Bintou Keïta est arrivé ce jeudi à Goma, en RDC. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO doit s'entretenir avec les représentants de l'AFC M23. 3 jours de travail sur place sont prévus pour mieux comprendre la situation sur place et l'impact du conflit sur la population, selon la mission onusienne. Alors pourquoi cette rencontre entre Bintou Keïta et Corneille Nanga, coordinateur de l'AFC M23, est particulièrement attendue? Élément de réponse avec Passion Ligaudi.
Cette visite intervient au lendemain de la publication du rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. Un rapport accablant pour l'AFC M23. Comme le mois précédent, la majorité de violations et atteintes aux droits humains enregistrées en avril sont attribuées aux groupes armés. Et en tête, l'AFC M23, appuyé par l'armée rwandaise, dit le rapport. Viennent ensuite les groupes Wazalendo favorables au gouvernement. Il faut aussi dire que les relations entre la MONUSCO et l'AFC M23 n'ont jamais été simples. Certains cadres du mouvement politico-armé continuent de considérer la MONUSCO comme une force belligérante vaincue, au même titre que l'armée congolaise. Il y a 2 mois, Bintou Keïta dénonçait devant le Conseil de sécurité les restrictions imposées à la mission dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Des restrictions comme les barrages routiers ou l'exigence d'un préavis de 48 heures pour les convois, disent les sources onusiennes. Mais malgré ce contexte tendu, le dialogue n'a pas été rompu. Ces dernières semaines, certaines restrictions ont été levées à Goma. La mission a pu réapprovisionner ses bases avec l'appui de ses propres escortes militaires. Cette visite est jugée importante aussi parce qu'elle intervient 2 semaines avant le prochain briefing de Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité, prévu le 27 juin, un briefing consacré à la situation en RDC.
Et c'est dans ce contexte que les premiers soldats sud-africains engagés dans l'est de la République démocratique du Congo vont rentrer au pays ce vendredi à la mi-journée. Ils étaient déployés dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe. Leur arrivée est prévue à la base aérienne de Bloemfontein à Bloemfontein. Ils seront accueillis par la ministre sud-africaine de la Défense, accompagnés des membres du commandement militaire. Une conférence de presse est annoncée dans la foulée. L'actualité dans la région, c'est également en Afrique du Sud. Le bilan des inondations monte à 78 morts. De fortes chutes de neige et des pluies torrentielles ont touché ce lundi plusieurs zones de la province du Cap-Oriental dans l'est du pays. Des inondations jugées sans précédent par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il se rendra dans la région ce vendredi. Sur les vidéos, on l'aperçoit chuter avant d'exploser. Un avion de la compagnie Air India à destination de Londres avec 242 personnes à bord s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport international d'Ahmedabad. C'est dans le nord-ouest du pays, il n'y a qu'un seul survivant. Alors si les causes du crash ne sont pas encore connues, le drame implique encore une fois un avion Boeing, un 787. Nicolas Feldman, c'est un coup dur de plus pour le constructeur américain.
Dès son lancement en 2011, le Boeing 787 révolutionne le marché du long courrier, plus grand, plus économe en carburant que les précédents avions. L'appareil bat très vite des records. Avec plus de 2500 commandes, il est adopté par 80 compagnies dans le monde. Ces dernières années, pourtant, le 787 enchaîne les déconvenues. En 2021, des problèmes de fuselage sont détectés sur certains appareils. Sa production est suspendue pendant 2 ans. L'année dernière, un 787 qui relie Sydney à Auckland subit un trou d'air. 12 passagers sont hospitalisés. La compagnie chilienne qui opère le vol parle d'un incident technique. Si le crash d'hier en Inde est une première pour un modèle 787, il s'ajoute à une série d'accidents mortels sur d'autres appareils Boeing. En 2018 et en 2019, ce sont 2 avions des 737 MAX qui s'écrasent en Indonésie et en Éthiopie. 346 personnes perdent la vie. Le mois dernier, l'entreprise a trouvé un accord avec la justice américaine dans ces 2 crashs. Pour s'éviter un procès au pénal, Boeing a réglé une amende de plus d'$1 milliard.
Gaza toujours visée par l'État hébreu. Ce jeudi, la défense civile annonce la mort de 29 personnes. La plupart d'entre elles se trouvaient à proximité d'un centre d'aide humanitaire. C'est dans ce contexte que la députée européenne et militante pour la Palestine, Rima Hassan, est rentrée en France, à Paris. Elle avait été détenue plusieurs jours en Israël suite à l'interception du navire humanitaire dans lequel elle convergeait avec d'autres militants vers la bande de Gaza. Pour célébrer cette libération, le rendez-vous était donné par les insoumis et les proches de Rima Hassan, place de la République à Paris. La franco-palestinienne a été acclamée par plusieurs centaines de personnes. On l'écoute.
Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution. Ce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale.
Propos recueillis par Victorien Villaume. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, accuse le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de s'aligner sur l'extrême droite. Déclaration après la dissolution de la Jeune Garde en Conseil des ministres. Ce mouvement antifasciste de gauche radicale fondé par le député insoumis Raphaël Arnaud, lui qui avait donné, lui a donné rendez-vous devant le Conseil d'État pour contester cette dissolution. Le Conseil des ministres a également prononcé la dissolution du groupe d'ultra-droite Lyon Populaire. Un accord signé avec notre pays, ami et frère, les mots du président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie va exporter 48 avions de chasse fabriqués en Turquie vers l'Indonésie. Une première pour Ankara dans le secteur aérien. Les précisions de Franck Alexandre.
Avec ce premier contrat en poche, l'industrie turque de défense aura quelques arguments à faire valoir dans les allées du Salon du Bourget, le plus important rendez-vous aéronautique qui lundi ouvre ses portes à Paris. Jusqu'à présent, et dans ce secteur, la Turquie était surtout connue pour ses drones de combat à voilure fixe. Ce sont de véritables avions de chasse, même si l'appareil est encore loin des standards européens et américains. Le Khan est largement inspiré du F-16 américain, dont les Turcs assemblaient déjà pour leur force des éléments sur leur territoire. 10 milliards de dollars sur 10 ans pour 48 avions et un transfert de technologie vers l'Indonésie, ce n'est pas marginal et cela révèle les grandes ambitions d'Ankara dans le domaine des avions de guerre à coût raisonnable, un modèle qui jusqu'à présent lui a parfaitement réussi pour les équipements terrestres. Et surtout les drones.
Et puis on vous rappelle la principale actualité de ce journal. Ces frappes israéliennes en Iran sur 10 de sites militaires et nucléaires selon Israël. De fortes explosions ont été entendues à Téhéran. Le ministre israélien de la Défense évoque des frappes préventives. L'opération militaire israélienne contre l'Iran durera autant de jours que nécessaire. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. RFI bientôt 3h10 ici à Paris, 1h10 en temps universel.